On est désolé, le son, la qualité du son de la piste de Yann sera un petit peu inférieure pour cet épisode parce qu'on l'a enregistré à distance, mais on vous promet que dans les futurs épisodes, ce sera meilleur vu qu'on enregistrera ça en live, en direct de la chambre de Yann.
Je suis mort de rire parce qu'elle m'a pas dit qu'elle partirait en deux-deux sur l'explication tout de suite en disant désolé, c'est de la merde. Mais en fait, effectivement, de mon côté, le son est pas très bon sur cet épisode-là. La bonne nouvelle, c'est que sur tous les suivants, on enregistre dans une même pièce, sur le son que vous entendez maintenant. Donc ce sera 10 000 fois plus propre.
C'est ce que je viens de dire. Merci de répéter exactement ce que je dis. Merci de faire du
Exactement,
yansplaining.
exactement, je suis pas tout à fait
C'est
d'accord.
du yansplaining
C'est.
total. Bon, et ben, profitez de l'épisode. Peu importe la qualité du son, on vous retrouve dans quelques semaines avec un son au top.
Ça marche, ce qui est cool déjà. Turn volume up, repeat 3. Redis-moi quelque chose pour voir.
Coucou.
Ok, ok, Google, plus fort. Évidemment, il m'écoute pas. Ok, Google, augmenter le volume de Bravia.
En même temps, je trouve que c'est bien comme ça donne conscience aux gens de ce que c'est réellement ce dont tu parles dans ton article. Donc ça, j'insiste pour qu'on ne le coupe pas.
On peut, mais il va encore me falloir du temps. Ok, Google, le plus fort sur Bravia. C'est clair que dans l'article, t'as côté un petit peu, ouais, faut que je fasse ma commande, c'est chiant. Mais dans la réalité, parfois ta commande elle est juste pas comprise parce que l'assistant vocal il fait autre chose.
Tout à fait, ouais. Et c'est très important que les gens le comprennent, je pense. En tout cas, moi je trouve que c'était important pour moi de le comprendre.
Dans ton casque, là, avec. Enfin, je veux dire, est-ce que du son que je t'envoie moi, tu t'entends toi, en écho?
Non, absolument pas.
Ok, c'est une excellente nouvelle. Très bien. Bien. Donc cet enregistrement là il tourne, le tien il tourne aussi. Du coup j'ai plus qu'à faire une dernière chose qui est de dire split view open notes et j'ai mes notes. Go to sleep.
Waouh, t'as fait des notes, t'es sérieux?
Go to sleep. Ouais, j'ai juste les trois noms de segments avec ce que j'ai dans chacun plus l'adresse du tmi@blueprint.pm. Donc
ok.
Go to
Et
sleep.
plus préparé que moi. Je
Écoute,
voulais parler d'un
toi tu as
sujet qui
maté
est
plein de
un long
documents
sujet.
pour l'émission, donc j'ai envie de te dire.
Je suis désolée de mon retard. En fait, ma maman m'a parlé d'un concert qui allait être diffusé au cinéma et je lui ai demandé si elle parlait de celui de Taylor Swift. Et ça a mené au fait que je lui montre le documentaire Miss Americana sur Taylor Swift, donc. Qui est un superbe documentaire sur la place des femmes dans la musique et dans le monde et sur ce que ça signifie d'être une femme. Et maintenant elle est épatée, elle est aussi fan de Smith.
Est-ce que
Swift.
C'est de ce documentaire-là qui est tiré la séquence qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux?
Oui, où elle parle de Marsha Blackburn. Mais où ils attribuent, où ils disent qu'elle parle de Trump alors qu'elle dit her.
Ouais.
Bon.
Ouais. Du coup, ouais, ça vient de là. D'accord. Et il date de quand, du coup, le documentaire? Il doit avoir quelques années si c'était sur Marsha Blackburn.
Je viens de te dire que j'étais pas préparée, j'en ai aucune foutue idée.
Peut-être que la formule de Getting to Know You change un peu, mais il y a certaines choses qui restent
confortablement comme elles
l'étaient.
Et tu sais quoi? Le pire, c'est que là. Je voulais parler du fait que j'étais en train de faire une pause de weed de 28 jours. Et on en est au 22e jour. Et j'ai craqué. J'ai fumé un petit joint et j'ai eu une conversation absolument géniale avec ma mère. Parce qu'en fait, on a parlé de Easy Rider. En fait, c'est parti du fait que l'alcool, à mes yeux, c'était beaucoup trop banalisé dans la société. Et ensuite, elle m'a mentionné le film. On a parlé du LSD. Elle m'a mentionné le film Easy Rider. Et en fait, je lui ai dit que moi, c'est un film auquel j'avais rien compris parce qu'elle me l'a montré quand j'avais 10 ans. Oh. Et à 10 ans, tu comprends pas grand chose, sauf que elle y comprenait quelque chose, vu qu'elle a grandi dans une communauté de hippies qui prenaient du LSD. Et on a parlé de ça, on a parlé du fait que, ouais, ben, l'alcool, c'est à ses yeux, et pourtant elle a été dans l'héroïne pendant une dizaine d'années, à ses yeux, pour elle, l'alcool, c'est la drogue la plus destructive qui soit. On a parlé plein de sujets intéressants et après je lui ai montré le documentaire sur Taylor Swift et on a de nouveau, enfin, on a vite eu une petite conversation sur le docu, vu que tu m'as écrit à la fin pour me dire qu'on était censé enregistrer le podcast.
Non, je t'écrivais pour moi-même te dire que j'allais avoir du retard, donc tout va bien. Tu m'as dit, oh là là, je vais avoir 15 minutes de retard, j'étais là, oh bah je suis tranquille, tout va bien. Tout est beau.
Bon, bah, ça me rassure, parce que je m'en serais voulu de... Parce que je sais à quel point tes minutes sont précieuses et j'aurais pas voulu en gâcher.
Mes minutes sont beaucoup plus précieuses quand je fais un effort pour avoir un vrai micro devant la bouche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que... parce que la vie est compliquée, j'en parlerai tout à l'heure pour des... Pour... Voilà, ça va bien se pluguer avec un de mes sujets, mais... si on veut faire ce podcast, il faut aussi un certain degré de compromis, et ce compromis, c'est peut-être... ce son là, je sais pas encore.
Moi, en tout cas, dans mon cas, j'ai un son très bien.
On verra exactement comment on peut optimiser parce qu'on continue de, pour le micro en question, on continue d'essayer de calibrer les trucs pour faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Mais voilà, donc, mais juste avant qu'on aille sur notre programme du jour, comme on dit en anglais, sur l'alcool et le caractère destructeur de l'alcool, tout à fait, l'alcool est destructeur, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à l'héroïne, la comparaison me semble quand même un petit peu contre-intuitive. Est-ce qu'elle disait ça aussi dans le sens parce que l'alcool est massifié, parce que l'alcool est à ce point-là?
Non, elle disait ça dans le sens où les effets de l'alcool pour elle sont bien pires que ceux du LSD. Par exemple, avec le LSD, t'as jamais de blackout. Tu vas pas blackouter quelque chose que t'as fait, alors qu'avec l'alcool, c'est pour beaucoup de personnes, c'est quasi systématique. C'est une pratique. Je sais que pour moi, pour de nombreuses années, l'alcool, c'était quasi toujours synonyme de blackout.
D'accord. J'ai jamais eu... Est-ce que j'ai eu des blackouts?
C'est pour ça que j'ai fait une pause pendant 4 ans, j'ai pas touché un verre d'alcool. Parce que ma relation à l'alcool n'était pas saine.
Ouais, j'allais dire, justement, si ça te mène à du blackout, c'est un bon signal d'alarme pour te dire « peut-être pas ».
Tout à fait, oui.
Ouais. On rappelle que Getting to Know You est votre premier podcast de témoignage sur les drogues et également n'est pas une source de recommandation médicale de manière précise.
Ceci dit,
à consulter un médecin pour de plus amples informations.
Une petite chose, un membre de mon entourage médical, pas un ami, mais un professionnel ou une professionnelle que je vais voir, m'a pseudo-conseillé la psilocybine. Enfin, cette personne m'a envoyé une vidéo expliquant que la psilocybine n'était pas une drogue, mais un médicament du futur.
Ok.
Donc la psilocybine, pour ceux qui ne savent pas, c'est les champignons magiques.
Qu'est-ce que c'est que la psilocybine?
Les champignons.
Ah, mais oui.
Apparemment, ça a été classifié complètement à tort comme une drogue parce que ça rend pas dépendant et ça ne stimule pas la production de je sais plus quoi.
Ok.
Et c'est cette vidéo qui m'a convaincue qu'il fallait que je teste les champignons magiques. Ça est la saison 1 de Yellow Jacket. Si vous savez, vous savez. Et si vous ne savez pas, regardez Yellow Jacket.
c'est une blague parfaitement éculée, mais vu que tu parles d'essayer des champignons à toute fin, je rappelle que dans 13 jours maintenant sort le prochain Super Mario, voilà. Je crois qu'on est bien.
Ok, on est bien. Bah ça équilibre, tu vois. Toi qui parles de trucs un peu technologiques, moi qui parle de drogue, on en est revenu à l'essence de Getting to Know You.
qui est avant tout le podcast post le Player Club, rappelons-le.
Le podcast qui a tué le Player Club.
Oui, j'essayais de l'emballer. J'essayais de faire un petit emballage sympa, là. Tu me casses mon truc. Bref. Aïcha, bonjour. Voici la nouvelle formule de Getting to Know You.
8 minutes 50 d'intro.
Non, on s'en fout. J'espère que tu aimes. Les sièges sont neufs. C'est bien confortable. Ils couinent beaucoup moins.
Il n'y a pas de punaise de lit.
Il n'y a pas de punaise de lit, exactement. Par contre, il y a trois segments. Alors, on vous rassure tout de suite, le segment titre potentiel existe toujours, à la fin comme d'hab. Si vous vous dites, de quoi il parle, c'est que vous avez coupé le podcast avant la fin à chaque fois, ne coupez pas avant la fin. Le segment titre potentiel, vous inquiétez pas, est préservé. Mais désormais, on a divisé, saucissonné l'émission en trois parties, après une introduction longue. La première, c'est une question qu'on va se poser chacun. Donc Aïcha a préparé une question pour moi. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai préparé une question pour Aïcha et à moins qu'elle se soit introduite dans mon iCloud, elle ne sait pas ce que c'est.
Merde, busted.
Le deuxième segment, c'est qu'on parle de quelque chose que nous avons envie de parler. Donc moi, j'ai un sujet préparé pour moi. Aïcha a un sujet préparé pour elle. Donc vous voyez le côté un petit peu. On arrive maintenant à contrebalancer un petit peu les choses, à créer de la spontanéité. C'est incroyable. On dirait que ce garçon fait du podcast depuis quelques années. Et enfin. Vous, les auditrices, les auditeurs, pouvez nous poser vos questions et les diriger à nous deux ou les diriger à une seule personne ou pas les diriger du tout et c'est nous qui choisissons. Et pour ce faire, vous écrivez à une adresse email qui est toute simple. TMI, comme Too Much Information, mais en abrégé en trois lettres, tmi@blueprint.pm. Vous inquiétez pas, c'est une adresse Blueprint, le podcast rejoindra un jour Blueprint, mais stressez pas à ce sujet-là, c'est pas grave. Techniquement, c'est toujours publié sur Radio Kawa. On s'en fout. C'est bienvenue dans le premier podcast qui est à cheval entre deux networks. Et donc, oui, envoyez-nous vos
questions.
Il
y a eu des séries comme ça au moment de la création de la CW et il me semble même de WB et UPN. Enfin, il y a une histoire avec Buffy qui est passée d'un network à l'autre. Je sais plus, j'ai pas mes notes. Je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais c'est de haut niveau pour un podcast de passer entre deux networks.
Exactement, je crois que c'est une première mondiale. En tout cas, tmi@blueprint.pm, et je vous recommanderais de nous envoyer des emails de manière anonyme, de manière vraiment prenez un générateur d'adresse email à la con, ou voilà, utilisez une adresse email que vous utilisez peu, ne signez pas, etc. Comme ça, vraiment, ça ajoute encore plus du mystère sur la provenance de la question. Et indiquez si vous le souhaitez, si vous souhaitez être nommé ou pas, si jamais vous avez quand même des informations qui permettent d'être nommé. Comme ça, ça nous permet aussi de savoir si on vous répond par votre prénom, si on répond pas du tout, si voilà. Donc ça vous donne une bonne idée pour faire ça. Et nous, ça nous donnera un segment de plus. Et pour vous, ça allonge l'émission à chaque épisode, je crois que le deal est incroyable. Vous pouvez allonger Getting to Know You sans Zen Pharmaceutique avec cette adresse email. Je crois que c'est incroyable. Revenons donc, si tu le veux bien, Aïcha, au premier segment. Est-ce que tu souhaites commencer ou est-ce que tu souhaites que je commence?
J'aimerais commencer, moi.
Donc, tu aimerais me poser une question?
Ouais.
Je t'en prie.
Alors, j'aimerais en fait... que tu m'expliques où tu en es de ta bataille avec l'AI et ce qui s'est passé ces derniers mois, parce que j'ai besoin d'être au clair et je pense que c'est important que les gens, même s'ils sont pas nombreux, mais je pense que c'est important que les gens sachent ce genre de choses. Parce que je trouve la situation de ce que j'en sais révoltante et j'ai envie que des gens soient révoltés avec nous.
C'est le début d'un programme politique, ça.
Je suis désolée si c'est délicat pour toi d'en parler. Ah, si
non.
Tu veux, on coupe ça et puis pose une autre question, mais...
J'ai pas de soucis. Alors, de toute façon, ça je le dis, hein, si jamais on se pose une question qui est vraiment trop gênante, on a effectivement le droit de joker caractérisation, c'est pas un problème, mais je n'ai pas à l'activer, ce droit de jokerisation, parce que c'est quelque chose, comment dire, que j'avais déjà évoqué par le passé et que je vais évoquer maintenant. Je vais d'ailleurs commencer par des petites explications, juste pour donner rapidos un petit peu de contexte. Quand on parle de l'AI, on parle donc de l'assurance invalidité, qui est une prestation qui est prévue au niveau national, mais qui est mise en œuvre au niveau cantonal. Ce qui fait que moi, dans le canton de Genève, en Suisse, l'assurance invalidité, c'est le CAS, l'Office cantonal des assurances sociales qui organise ça. Et j'ai déposé une demande début 2022 concernant la maladie qui s'est déclarée mi-2021, qui me laisse dans une situation où, en gros, je peux assez peu utiliser mes mains. Bah, typiquement, aujourd'hui, je les ai utilisés 45 minutes et j'ai battu le conseil des 4 de Pokémon Violet. Y'a quoi ? Je suis un vrai grand garçon maintenant.
Oh, ça, c'est cool.
Exactement.
Mais est-ce que t'arrives à te laver ?
Boursé par l'assurance maladie et c'est génial.
Excuse, j'ai juste envie de savoir, est-ce que t'arrives à te laver tout seul ?
Oui. Alors, question intéressante. Oui. Mais pas tous les jours, parce que ce serait too much, parce que le fait de me laver tout seul avec en allant dans la douche, j'y arrive de mieux en mieux chaque fois que je le fais.
Ah, génial.
Mais ça requiert un effort que je ne peux pas donner chaque semaine. Et d'accord. Pour des raisons, si tu me permets, que je développerai plus précisément dans mon segment autonome tout à l'heure.
Aucun problème.
Mais pour revenir à ta question qui était sur l'assurance invalidité, donc j'ai déposé cette demande début 2022.
Je suis à l'assurance invalidité pour ma bipolarité. Et je touche 1014 francs par mois.
J'imagine que tu as fait le calcul de rente minimale et ensuite le pourcentage de cette rente minimale en fonction de ton taux d'invalidité.
Je suis à 75% invalide, donc je peux travailler à 25%.
Mais sur la
base de la rente je bénéficie de prestations. Quoi ?
Sur la base de la rente minimale ou sur la base d'un ancien salaire ?
J'ai jamais eu de salaire, donc ils ont calculé sur le salaire potentiel.
Oui, voilà, celui qui est, hiérarchisé en fait.
Et heureusement que j'ai décidé de devenir prof plutôt que journaliste, parce que ma rente, elle a l'air sacrément différente. Parce que prof, en Suisse, c'est un des métiers les mieux payés.
Mm-mm. Et t'aurais mieux fait d'être un mec, d'ailleurs, parce que t'aurais été payé légèrement plus aussi, mais c'est un autre sujet.
Tu peux développer quelques mots là-dessus ?
On en a parlé tous les deux, d'ailleurs, par message interposé l'autre jour.
J'aimerais bien que les auditeurs en entendent parler bien également.
Bien sûr, mais c'est pour ajouter un peu de flavor à ma réponse. Excusez-moi. Oui. En gros,
je vois que ton invalidité touche également ton anglais.
Ça rebondit sur un précédent Getting to Know You, où en gros, on m'avait expliqué, justement, on va expliquer à ce premier rendez-vous qui avait eu lieu mi-2022, donc à peu près 6 mois après avoir déposé. Et ils avaient considéré ça comme, oh mon Dieu, c'est une intervention précoce, on vous voit très tôt. Je me mets à imiter Antoine qui fait des voix aiguës, c'est bizarre. Et en gros, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que sur ce que tu disais, toi, c'est-à-dire le fait que si tu n'as pas eu de salaire, imaginons, tu vas en études, tu finis tes études ou tu es milieu d'études et tu as une invalidité, on va effectivement calculer en fonction du métier que tu aurais eu. Et non seulement on va le faire en fonction du métier que tu aurais eu, mais en plus en fonction de si tu es un homme ou une femme. Et évidemment, l'inégalité salariale, vous-même vous savez, bah, les femmes gagnent moins que les hommes, donc du coup les femmes ont le droit à une.
C'est pas un mythe ça que les femmes gagnent. C'est pas un mythe que les femmes gagnent moins que les hommes.
Non, c'est pas un mythe. C'est.
D'accord, je voulais juste que ce soit dit clairement.
Et par un homme.
Pas que je sois accusée d'être la vilaine féministe.
Ouais. Faut aussi écouter les féministes. Enfin bref. Autre sujet. Oui. Donc non. Enfin, évidemment. Alors après, t'as toujours. Certaines justifications, notamment en partie du patronat et parfois également de je crois l'OFS donne cette justification-là, qui est, comment dire, moi j'aimerais bien voir le calcul précis pour être certain du truc, je comprends un petit peu, mais voilà, qui est de dire, ah, mais vous comprenez, les femmes elles font des enfants, du coup elles arrêtent de travailler payées, du coup ça ralentit leur progression dans l'entreprise et du coup elles sont moins payées. Ouais, mais ça explique pas tout. Et bon, bref, autre histoire. Autre histoire. Tout dans la vie est toujours plus compliqué qu'une punchline. Mais enfin, il y a des inégalités salariales qui s'expliquent par des trucs historiques assez classiques, notamment le fait que les femmes ont rejoint le marché du travail plus tard. Que le patriarcat et donc les mettre dans une situation un peu moins intéressante est pour le coup un peu plus intéressant pour les hommes et différents trucs. Bref. Et on les valorise moins. Bref. Tout ça pour dire.
T'as qu'à voir le nombre de personnes qui écoutent ce podcast uniquement pour toi. Moi, je suis clairement moins valorisée.
Je sais vraiment pas.
On devrait faire un sondage sur le site Blueprint pour vous écouter le podcast pour Aïcha ou pour Yann et voir qui gagne. Et celui qui perd se tire une balle. Pour rendre ça vraiment intéressant, il faut un enjeu.
Note ça pour les titres potentiels, s'il te plaît.
C'est un peu long, je vais juste garder celui qui perd se tire une balle.
Exactement, juste ça, oui. Bref. Je ne savais plus où j'allais avec ça. Si, j'allais juste te répondre là-dessus, puis après je répondrai à ta question. Oh là là, on est dans la parenthèse, dans la parenthèse, dans la parenthèse.
Ça montre bien comment mon esprit fonctionne.
Tu es le mien aussi, honnêtement. Et ça, c'est un point commun très très clair. Je ne suis pas certain d'être le plus populaire du podcast, le plus populaire du bal du podcast, parce que l'éthos de Getting to Know You, c'est d'être honnête, transparent,
spontané, humain.
Spontané, qui sont plein de choses que je... Enfin, honnête, au sens parler de soi, tu vois ce que je veux dire ?
Vulnérable.
Ouais, oui. Vulnérable.
Si je devais garder un mot pour ce podcast, ce serait, en ce qui me concerne, ce serait vulnérable. J'ai l'impression qu'il y a quoi, 8 ans de mes journaux intimes qui sont sur le net enregistrés.
Et pour le coup, j'ai l'impression que toi, tu es bien meilleur à cet exercice-là que moi. Et du coup, spontanément, je me dis si les gens m'emmènent pour quelqu'un pour ce podcast, c'est probablement pour la personne qui est la mieux armée, la plus efficace pour l'objectif même du format.
Et après, moi, je pense que tu es quelqu'un de beaucoup plus likable que moi. T'es quelqu'un de mieux, en fait.
Ouais, enfin... Alors déjà, le jugement de valeur, il se pose là. Et le deuxième truc, c'est que est-ce que je suis plus likable et est-ce que je suis, entre très gros guillemets, mieux, simplement parce que, justement, par manque de compétences sociales du point de vue parler aux gens spontanément, etc., en dehors d'être intermédié par un podcast ou par c'est pour le taf, etc. Je mets beaucoup d'etc. dans cette phrase, mais vous inquiétez pas. Est-ce que justement, je choisis ce que je présente aux autres, beaucoup plus que toi, je fais dans la curation de ma propre personne, et du coup ça me rend plus likeable, pour reprendre ton terme, parce que j'en trouve pas d'autres, que toi, tu vois.
Tu sais, il y a, je crois, quelque chose comme 8 ans, Dan Harmon sur Reddit, il m'a dit « Si tout ce que tu es est humaine, et si c'est le message honnête que tu as à transmettre aux autres, tu es au-delà des reproches, et je crois que j'ai vécu au travers de ces mots depuis.
» Que ça t'encourage dans cette vulnérabilité, en quelque sorte.
Ouais, mais étrangement, pas tant que ça dans la vie de tous les jours. C'est beaucoup plus facile d'être humain derrière un micro.
Ben, on a peut-être la même facilité, on va dire, à être plus sociable via ça que en général. Tu vois ?
Tout à fait.
Ouais ! Allez.
Tu te rappelles de quoi on parlait, parce que moi, pas du tout.
On a affaire. Bravo! Bravo à tous les deux. Yvan est forte. Allez. Oui. Donc, là, où est-ce qu'on en est maintenant? Cet été, on m'a rendu une opinion médicale qui n'est pas la décision définitive concernant ma demande, mais qui en donne quand même beaucoup le contour, qui est que je serai invalide à 30%, ce qui ne me donne droit à rien. Quand je dis donne droit à rien, c'est-à-dire ne donne droit ni à une rente, ni à des mesures concrètes, que ce soit de formation ou d'aide à la réadaptation, tu vois, où ils vont vraiment investir des trucs dans le processus. En gros, l'idée, c'est qu'ils me tapent sur l'épaule, ils me disent écoute, coucou, c'est difficile, et on reconnaît que c'est difficile, on reconnaît que c'est ouais, t'as effectivement 30% d'invalidité, mais pas assez pour faire baisser plus ton taux d'activité ou pour considérer qu'il y a besoin d'une aide financière ou d'une aide autre de notre
part. Tu sais ce que je pense qui m'a sauvé, moi ? Le fait que j'ai fait l'Uni et que pendant l'Uni, j'ai passé à peu près 75% du temps en période de dépression à devoir me faire des certificats médicaux. Du coup, j'avais 7-8 ans de certificats médicaux réguliers derrière moi.
Ouais.
Je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie.
C'est clair que c'est du solide. Hein. C'est du solide parce qu'on peut dire ça, c'est un truc de complaisance. C'est un truc de complaisance qui dure 7-8 ans et qui peut-être passe à travers plusieurs médecins. Faudrait y aller. Hein.
Ouais.
Faut avoir un bon jet de persuasion, comme disent nos amis du JDR.
Non, c'était plus 3-4 ans, je crois, de papier. Bah, parce que c'était j'ai reçu des indemnités journalières. Les indemnités journalières, c'est ce que touchent les personnes en formation de la part de l'AI. Donc, c'est chaque jour un certain montant. Qui est assez élevé, je crois, en tout cas 80 francs par jour, il me semble.
Ok.
Je vivais très bien à l'époque où j'étais étudiante. C'était un très bon montant et c'est quelque chose que l'AI verse aux personnes en formation ou en reconversion pour leur permettre de poursuivre leur formation. Et j'ai touché ça pendant 4-5 ans, je crois, quelque chose comme ça.
Je vais me permettre de faire une observation. Au-delà de l'orientation générale de ce pays et du coup des politiques, l'orientation politique de ce pays et donc du coup des politiques plus spécifiques comme celle de l'assurance invalidité, j'aimerais faire observer qu'il y a des fois où ça marche. Hein. Typiquement, ce que tu décris là, c'est que tu aies pu vivre, quand on dit confortable.
J'ai pu faire des études.
Non plus une vie de palais.
Non, c'est pas une vie de palais, mais c'est une vie où je pouvais me permettre de sortir boire des verres avec mes potes.
Voilà.
Où je pouvais me permettre d'acheter les bouquins à la rentrée. Bon, d'accord, il y avait certains mois qui étaient serrés, mais c'est une vie où je pouvais m'acheter des fruits et des légumes, tout simplement.
Ça me rend dingue. Et voilà. Et ce que je veux dire, tu donnes l'exemple là maintenant, c'est que ce système peut bien marcher, relativement. Et il y a juste des fois où il se chie dessus. Et la situation que tu vis maintenant, où voilà, c'est beaucoup plus difficile pour toi, d'acheter des fruits et des légumes, c'est une preuve que le système se chie dessus. Et désolé, hein, je sais que je suis jugé parti, mais.
Ce que tu vis, toi, c'est une preuve que le système se chie dessus, mais monumentalement, parce que 30% d'invalidité, quand on peut même pas se doucher tous les jours, voire deux fois par jour, sans être accompagné dans chacun de ses gestes, c'est pas être invalide à 30%, c'est être invalide à 75% en tout cas.
Ah, mais... Je lève la main droite pour dire.
Non, mais c'est important que ce soit pas toi qui le dise, et c'est important tout simplement que tu l'entendes, parce que j'ai envie de te le dire à chacune de nos conversations, ce que tu vis est profondément injuste. Je suis entourée en ce moment et j'ai beaucoup de mal avec ça parce que ça me fait un mal absolument dingue, mais j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui en ce moment sont en train de vivre des situations très difficiles et pour qui je peux absolument rien faire. Et ça montre juste à quel point le système de la Suisse, tout bon puisse-t-il être quand il pense que tu vas réussir à terminer une formation de prof et contribuer aux impôts avec ton salaire de prof, que quand ils se disent « Ah ben tiens, là, elle est en chaise, elle finira probablement pas ses études. » et qu'on me dit, bon, bah maintenant, c'est fini, tu vas au social.
On a fait le choix pour toi, ouais. C'est cruel, d'autant plus que ça va à l'encontre de ce que ce système est censé permettre, c'est-à-dire d'une part une réinsertion à l'emploi, et surtout le choix. Ce qui est censé être le fruit au bout du truc un peu pénible, d'avoir un État extrêmement libéral, d'avoir ce principe basé sur la subsidiarité dans les aides, qui revient à dire en gros on veut d'abord que tu t'aides de ta propre fortune et de celle de tes proches avant que l'État intervienne pour t'aider conséquemment. C'est que t'as le choix en gros de t'organiser comme tu veux, mais dans des situations comme celle que tu viens de décrire, littéralement on te l'enlève. Et quand il est question juste de la vie et du métier de quelqu'un, enfin, de quelque chose d'aussi essentiel dans l'existence de quelqu'un, de la manière dont on a décidé d'organiser la société, c'est dur, c'est violent de prendre ce genre de choix. Bref, ça m'énerve. Je vais être tout net avec toi, ça m'énerve. Il m'énerve.
Je comprends, mais on est là pour avoir les conversations qui fâchent.
Bien sûr. Toutes les conversations qui fâchent contre l'État, je suis là pour les avoir. D'autant que l'État n'est pas
moi
là pour
aussi.
Se défendre, donc c'est vraiment parfait. Ouais, donc en gros, c'est ce fameux 30% d'invalidité en mode « Ah ouais, portez pas des trucs trop lourds, et puis oui, bah voilà, vous utilisez le contrôle vocal, bah ça marche bien pour vous, bah voilà, continuez à faire ça comme ça, sans se poser la question de savoir si c'est adapté au métier, sans se poser la question de savoir si je peux aller sur une place de travail tous les jours. » Genre, déjà, ou en tout cas, si c'est 70%, 30%, 3 des 4, enfin, 3,5 des 5 jours. Le truc est incompréhensible de A à Z, d'autant plus que cette décision-là, c'est pas basé sur, on pourrait se dire, tu vois, vu de loin, un examen médical que ces gens-là m'auraient fait passer. Non. C'est le médecin mandaté qui a lu des paperasses, des rapports, etc., fournis par mes médecins, qui ont conclu ça, et ensuite, quand je vais voir mes médecins, je leur dis, non, il a conclu ça. Ils font, ah ouais, non, enfin, c'est pas correct. Et ouais. Et le truc, en fait, les deux trucs qui m'ont vraiment fâché, le premier truc, c'est quelqu'un de l'AI, que j'ai eu au téléphone après coup, qui m'a dit « Ah ouais, mais vous, vous avez jamais vraiment travaillé. » Je dis « Ah, pardon. » Alors oui.
C'est dégueulasse.
Que j'ai jamais tenu d'emploi.
Mais moi, on m'a dit pareil. J'ai fait un master, on m'a dit « Vous avez jamais vraiment travaillé. » Bah si, j'ai travaillé, simplement j'avais pas de salaire régulier.
Je suis... je peux être généreux, tu vois. Imaginons que je fasse des études. Juste des études. Et on me dise derrière, vous n'avez jamais vraiment travaillé, ce serait quand même se foutre un peu de la gueule du monde, parce que les études, c'est du travail, mais je peux comprendre que dans la logique de « je suis l'assurance invalidité, le travail dont on parle, c'est le travail rémunéré », tu vois, je comprendrais un peu. Ensuite, qu'on me dise ça, parce que simplement, j'ai pas tenu d'emploi à 100%, il faut savoir pourquoi j'ai pas tenu d'emploi à 100%. La conjoncture actuelle dans mon métier, elle n'est pas super géniale. Et j'ai poussé dans tous les sens. Si tu regardes mon dossier et que tu regardes que j'ai essayé de bosser à la fois dans mon propre milieu et dans différents trucs, dont notamment la recherche universitaire, dont notamment des trucs qui bordaient autour de la communication, etc., tu peux te dire « Attends, ce monsieur, oui, enfin si, il a fait ce qu'il pouvait. Pour travailler, ça n'a pas pris, parce que c'est la merde, mais de dire, alors que j'ai fait ça, du travail bénévole, des études, etc., enfin, qu'est-ce qu'il leur faut ? Bref. Il y avait ça. Ça j'ai trouvé ça. Et en fait, ce qui m'a vraiment fâché, c'est pas qu'on me le dise, tu vois, parce qu'encore une fois, t'as le côté un petit peu, oui, c'était pas un travail à 100%, je peux comprendre la confusion là-dessus. Par contre, quand je dis, je suis pas tout à fait d'accord, et qu'on me dit « Oh non !» limite qu'on se fâche parce que je trouve le truc potentiellement offensant, ça j'ai trouvé plus dur en fait. Parce que l'incapacité de se remettre en question, ça je l'ai trouvé plus difficile à avaler.
Et, ouais, tout à fait.
Donc il y avait ça, hein. Et puis l'autre truc qui m'a bien fait marrer, c'est quand la même personne m'a dit, ouais, effectivement, vous pouvez contester, mais s'il n'y a pas de... comment dire, si le médecin qui a été mandaté ne reconnaît pas immédiatement qu'il y a effectivement une erreur, ça peut partir en opposition, ça peut partir devant le tribunal. Moi, je lui dis, bon, bah d'accord, c'est quoi les frais encourus habituellement en ordre de grandeur, que je sache si je peux me les permettre. Puis, non seulement cette personne ne me donne pas vraiment une réponse cohérente sur combien ce serait, ce que je peux comprendre plus ou moins, parce que ça peut être variable en fonction de différents trucs, mais voilà. Elle me dit, ah, mais finalement, vous savez, vous pouvez toujours être représenté par un avocat commis d'office. Donc, t'as une personne qui est en train de te dire, t'es potentiellement en train de te faire avoir. Mais t'inquiète pas, tu peux avoir l'avocat le moins préparé possible par rapport à ce genre de choses-là, et c'est la solution qu'on te conseille.
Tout à fait.
Et ça, j'ai trouvé ça assez frustrant, pour le coup.
C'est dégueulasse.
Voilà. Donc, on verra. Peut-être que le temps... Comment dire, le temps permettra à ma situation d'être... d'avoir la conclusion, à mon avis, qui s'impose, c'est-à-dire autre chose que 30% d'invalidité. Et aussi des termes un peu plus importants par rapport au télétravail, notamment dans les circonstances pour la mise en place du travail, du retour au travail. Mais pour l'heure, je suis pas hyper confiant, si tu veux. Pour l'heure, je suis plutôt en mode ma fortune va continuer à s'effriter, puis je vais finir à ce qui s'appelle à Genève le Suisse général, c'est-à-dire vraiment, on t'aide sur les factures parce que t'as, il te reste quasiment plus un rond. Et voilà. Et c'est la direction que ça prend. Sachant que, encore une fois, il y avait la RTS qui a diffusé toute une série à propos du contrôle des pauvres, dont un épisode consacré justement à l'assurance invalidité, en expliquant notamment qu'une fois que tu touches ta rente, t'es soumis à des contrôles, donc, du coup, tu peux la reperdre pour des raisons toutes bêtes. Et je te dis, sincèrement,
quand t'as une maladie mentale, c'est génial de savoir que ta vie peut s'effondrer à tout moment.
Oui.
C'est incroyablement réconfortant.
Ouais. C'est pas stressant. Et puis même, effectivement, c'est encore plus aggravant pour les gens qui souffrent de maladies mentales, mais même si tu souffres simplement d'une maladie physique et que t'es dans une situation,
incertaine.
Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand tu touches l'ail. N'importe qui est en situation d'invalidité peut toucher l'ail. C'est simplement que si t'avais un plus gros salaire, t'aurais une plus grosse rente. Parce que c'est du prorata de ce que tu touchais. Et voilà. On verra si c'est le cas à l'avenir, si je vais toucher quelque chose à l'avenir. En tout cas, pour l'instant, non. Et ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années pour... Enfin, j'ai entendu des cas de gens chez qui ça a pris 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà.
Alors juste, j'ai envie de dire, de préciser pour donner une idée, quand j'ai dit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, quand j'ai dit que l'AIM versait 1014 francs par mois, en Suisse, en 2021, le seuil de pauvreté, c'était 2289 francs par mois pour une personne seule.
Mmh. Alors, oui, et encore... Je vais pas te dire, oh non, on donne trop, on donne pile la bonne somme, c'est bien. Non, par contre, le système est prévu pour être complémentaire, c'est-à-dire que tu peux également toucher d'autres choses à côté. C'était vraiment...
Je sais, moi je touche les prestations complémentaires qui me versent le montant de mon loyer par mois, ainsi que ils couvrent mes frais médicaux, enfin une partie de mes frais médicaux.
Ce qui est du coup, je crois... ce que fait le Suisse.
Et mon assurance. Mon assurance maladie également, ça c'est une très grosse part de son budget quand on vit en Suisse, c'est l'assurance maladie.
Et ça ne fait qu'augmenter. Moi ce que j'adore d'ailleurs, c'est que tout le débat sur le montant des primes, on dit la prime qui va atteindre 300-400 francs. Ouais, ça c'est si t'as une franchise haute. Si t'as une franchise basse, parce que t'as peut-être pas envie de payer des masses. La prime est plus chère. Mais bref. La prime est parfois beaucoup plus chère. Non, voilà. C'est ma réponse à ta question. Et ça tombe bien parce que ma question à moi, pour toi, portait sur quelque chose de relativement connexe.
Alors, ok.
C'est-à-dire sur le rapport, son rapport à l'incapacité, en quelque sorte, et à l'organisation du quotidien. Puisque la question que je voulais te poser aujourd'hui, et encore une fois, tu es libre évidemment de la refuser, c'est de savoir, est-ce que tu estimes avoir assez de temps pour toi en général, dans une journée, dans une semaine, ou est-ce que c'est phagocyté par autre chose? Et quand je dis ça, on peut évidemment penser à ah, le travail, etc. Oui, le travail prend du temps qu'on aimerait consacrer à nous-mêmes, c'est le béaba de la vie. Mais je veux aussi dire par là que tu vas voir des médecins, tu vas, je sais pas... Tu vas à des groupes de parole. T'as différents trucs. Et également, est-ce que je pense que les gens savent, mais c'est un petit peu le non-dit de ce genre de situation-là, juste tes difficultés, ta souffrance, prend du temps, parce que ça ralentit des choses, parce que ça rend des choses plus difficiles, parce que ça nécessite de faire des choses que tu ne ferais pas si tu étais valide. Et donc, du coup, je voulais savoir si tu te retrouvais à te dire alors, j'aurais aimé avoir un jour de plus dans la semaine ou quelques heures de plus dans la journée.
Pour te répondre, sincèrement, là, je veux commencer par dire une chose et être très claire à ce sujet. En ce moment, et j'insiste sur le « en ce moment », ça va. Ouais. Il y a une semaine, ça n'allait pas du tout. Dernièrement, là, il faut savoir que je travaille 2 jours par semaine, en moyenne. Même pas en moyenne, non, je travaille 2 jours par semaine. En général, le vendredi et le dimanche. Le vendredi, c'est 6 heures d'affilée et le dimanche, c'est 8 heures. De 14 à 22 heures ou de 16 à 22 heures, voire de 16h50 à 22h50 et de 14h50 à 22h50. Ça varie, mais c'est toujours dans ces eaux-là. Et avec ces 2 jours par semaine de travail, ça va. Par contre, il se trouve qu'il y a quelques semaines, une collègue a été malade. Du coup, il n'y avait plus assez de personnes. Du coup, je me suis retrouvée à une semaine devoir travailler 4 jours, dont 2 jours d'affilée en présentiel. Et je l'ai très, très mal vécu, ça, à base de crises de larmes, de grosses, grosses, grosses déprimes, de pensées suicidaires, de grosses décompensations, on va dire. Ça a été très difficile pour moi de gérer le 4 jours de travail par semaine, je vais pas te mentir. J'en ai été complètement incapable, ça m'a pris, je crois, 10 jours pour m'en remettre. Donc, je pense que 2 jours par semaine de travail, c'est bien. Sachant que je vais à un groupe de parole libre chaque semaine, le mercredi matin, à 10h, je dois me taper 20-30 minutes de transport en commun. Je dois être réveillée. Je me réveille en général aux alentours de 8h, donc c'est difficile pour moi qui prends quand même des médicaments assez lourds pour pouvoir dormir. C'est difficile pour moi de me lever. Je vais aussi une fois par semaine chez l'infirmière psychiatrique. Et une fois par mois, quand j'en ai un, chez le psychiatre. Maintenant, j'en ai plus. Et je sais pas quand j'en aurai de nouveau un parce que, spoiler alerte, c'est la merde. Ils ont pas assez de personnel, donc ce serait possible que j'en revoie pas un avant 6 mois. Oh. À moins qu'on doive absolument ajuster mes médicaments d'urgence, auquel cas j'aurai une consultation d'urgence avec un médecin. Donc ouais, je vois aussi ma maman 2 jours par semaine. C'est du temps qui me recharge vraiment. On regarde des séries ou des films. Je lui fais découvrir mon monde. C'est des moments vraiment que j'apprécie énormément. Je vois aussi une autre pote 1 jour par semaine en moyenne. Mais du temps pour moi, oui, j'estime que quand je travaille que 2 jours par semaine, j'en ai assez. Plus, ce serait impossible à gérer. Mais ça veut pas dire pour autant que je fonctionne aussi bien qu'une personne normale. Par exemple, j'ai un mal fou à prendre une douche tous les jours. J'ai un mal fou à me brosser les dents plus d'une fois par jour. J'ai un mal fou à faire la vaisselle, à sortir les poubelles, à faire le ménage. Des fois, j'ai honte de le dire, mais des fois, j'ai même du mal à m'occuper de mon chat. C'est-à-dire que les basiques, changer son eau, le nourrir, lui donner ses médicaments, nettoyer sa caisse, ça je le fais, mais je sens que des fois il manque de caresses et ça me brise le cœur de pas être capable de lui donner assez d'amour. Mais il y a juste des jours où même ça j'en ai pas forcément le courage. J'ai super honte de ça. Je crois que t'es la première personne à qui j'en parle. Mais de manière générale, je pense que je m'en sors plutôt bien pour ma situation.
Bon, c'est déjà bien que tu le saches, que tu le remarques, enfin voilà, que ce soit saillant dans ton esprit. Et puis de l'autre côté, tu peux aussi demander, alors forcément ça ne remplacera pas tout le temps, mais si quelqu'un passe chez toi, typiquement ta maman ou d'autres personnes, tu peux aussi lui demander des petits coups de main, notamment avec le chat.
Ma maman fait le ménage, elle s'occupe de mon chat comme si c'était son petit-fils. D'ailleurs, elle l'appelle son petit-fils. Elle dit qu'elle est grand-maman. Elle lui donne plein d'affection, il la lui retourne, il l'aime vraiment énormément. Mais il y a des jours, c'est pas la majorité des jours, mais il y a juste des jours où à la fin de la journée, je me couche et je me dis, j'aurais pu être plus affectueuse envers Charlie.
Ouais, je vois.
Et c'est une grosse culpabilité quand même.
Je comprends. J'imagine aussi que c'est une question de... Je dis pas ça pour relativiser ce que tu dis, hein. Mais c'est aussi une question de perspective. Moi, ça me rassure beaucoup d'entendre déjà que sur les besoins vraiment vitaux, etc., enfin, tout va bien. Et le contraire m'aurait étonné, si tu veux, mais ça reste toujours bien à entendre par rapport
à... Là, la grosse nouveauté, le plus gros changement dans ma vie, c'est quand même que j'arrive de nouveau à me nourrir. Ça, c'est en grande partie grâce à mon récent ex qui m'a redonné le goût de manger, en fait. C'était quelque chose que j'avais plus du tout. Et lui, il m'a vraiment, en me faisant des choses que j'aimais à manger et tout ça, il m'a remise en confiance avec la nourriture. Et c'est vrai que maintenant, j'ai pris 20 kilos. J'en ai perdu récemment 5.
Oh, ok.
J'en ai perdu 5 ces 2 ou 3 dernières semaines, sans rien changer à mon alimentation. Mais on a arrêté un de mes médicaments.
D'accord.
Donc ça fait plaisir de voir le chiffre descendre sur la balance, mais c'est pas non plus... Des fois, ça me bouffe l'esprit, mais c'est pas ma préoccupation principale, mon corps.
Ouais, j'allais dire, on en a parlé à l'écrit il y a quelques jours, je crois. C'était à l'écrit, je sais plus. Ou non, c'était appelé, je sais plus. Bref, on s'en fiche, ça n'a pas une grande différence dans le truc. On en a parlé par le passé et je vois ce que tu veux dire. Après, tu sais toi-même de quel point tu es parti en termes de poids. Et si baisse trop, ce sera un autre sujet, tu vois.
Tout à fait, oui. Mais là, j'étais sur mon IMC. Bon, on sait que l'IMC, c'est des conneries, mais sur mon IMC, j'étais à la limite du surpoids. Donc, tu vois, d'accord, quand t'étais en sous-poids et que tu te vois à la limite du surpoids, ça fait un choc quand même.
Ah oui, et puis j'imagine que physiquement, ça doit pas être forcément génial à ressentir, mais...
J'ai enfin un peu des seins.
Bah oui, madame, c'est de la graisse, hein.
Bon, j'ai du ventre aussi, mais moins quand je fais de la gym. Je vais me remettre à faire de la gym. Écoute, j'avais un tout joli ventre il y a quelques semaines.
C'est comment dire, pour peu que ce soit pas un trop gros sujet de stress. Et tout à l'heure tu disais
j'essaie,
cool, il y a ça qui se passe, c'est bien.
J'essaie de pas fixer dessus. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile parce que je pars quand même de loin d'une anorexie assez violente. Mais j'arrive à ce que ça me prenne pas toute ma journée, quoi.
Si toute ta vie, tu te vois d'une certaine manière et que ton corps change, c'est vrai que c'est pas... c'est quelque chose qui est un choc et difficile à accepter en même temps, quoi, parce que tu n'y penses pas. Puis tout d'un coup, tu te vois dans le miroir, tu fais « Ah ouais ? Ah vraiment ?» Mais bon.
Exactement. Tout à coup, tu te rends compte que plus aucune de tes jolies robes ne te va.
Je déteste quand ça m'arrive.
Ça doit t'arriver souvent.
It do be like that sometimes. Je crois qu'on a fait le tour de ma question, merci beaucoup.
Bah, en fait, j'ai pas vraiment répondu à ta question parce qu'on est parti de comment j'organisais mon temps et est-ce que j'en avais assez à mon poids et comment je le perçois.
Alors, oui, mais on est arrivé où... Enfin, tu m'as répondu par l'affirmative en me disant en ce moment, ouais, ça va.
Ok. Désolé, j'ai un peu trop parlé.
Bah, non, t'as donné du contexte autour. C'est un podcast, il faut qu'on parle dedans.
C'est vrai, j'oubliais. Mais tu sais, je suis pas un homme blanc, alors ça me vient pas naturellement de parler, moi.
C'est vrai, c'est vrai. Je peux te conseiller de te dessiner une barbe au marqueur sur le menton.
Je vais le faire à l'eyeliner.
Ça peut aider un peu, tu vois. Ça donne un... Comment dire, un peu de crédibilité.
Tout à fait. On sait tous que c'est ce dont je manque de crédibilité.
La crédibilité postiche. Le marqueur du podcasteur trentenaire barbu à lunettes.
Oh, make me a traditional podcaster.
Ah. Smite me, God. make me in their image. Bref. Ouais, ok, cool. Est-ce que tu souhaites que je te parle de ce que j'avais prévu pour moi?
Tout à fait, volontiers.
Yes. Eh ben, c'est bien parce que ça rentre un peu... On a une sorte de thématique fil rouge dans tout l'épisode. On verra si tu, le dérailles au dernier moment avec ton sujet. Mais de mon côté... et c'est quelque chose d'assez assez satisfaisant et puis en même temps flippant. J'ai l'impression de fonctionner à capacité. Et par là, j'entends, j'ai l'impression que j'ai de moins en moins de crainte vis-à-vis de savoir si je vais me faire du mal ou non en entreprenant telle activité ou si je vais trop me fatiguer, etc. Ce qui est cool parce que ça veut dire que je fais un peu plus de trucs. Le verso de ça, c'est que il me reste encore énormément de progrès à faire pour retrouver ma forme d'un temps et pour retrouver genre une indépendance chez moi. Et du coup, ça veut dire que c'est flippant. Parce que si c'est ça à peu près ce à quoi je dois m'habituer pour les années à venir, ça donne pas forcément hyper envie. Mais c'est un peu mon boulot pour cette fin d'année et pour même pour le futur en général, c'est de rendre ce futur intéressant quoi qu'il arrive. Mais ouais, je suis content parce que là, voilà, j'arrive à bien équilibrer les choses, que ce soit avec tout ce que j'arrive à faire avec le contrôle vocal. Depuis cet été, je peux même contrôler du jeu vidéo avec le contrôle vocal, c'est incroyable. Ce que j'arrive à faire.
Ouais, c'est vachement cool, je trouve.
Alors, ça reste limité, notamment par le fait que t'as un temps de latence de genre 2 secondes et demie entre le moment où je dis la commande et le moment où elle a lieu, ou le fait que bah, forcément tes commandes elles sont moins subtiles, donc il faut que ce soit des jeux extrêmement simples en quelque sorte. Y a plein de trucs qui font que c'est limité, mais j'arrive à littéralement télécommander ma PlayStation 5 à travers une application qui est faite par Sony d'ailleurs, mais sur laquelle j'ai rajouté des commandes vocales de mon cru et ça marche bien. Bref. Et du coup, je joue à Dicey Dungeons ou à Phoenix Wright et tout le monde est heureux. Surtout moi. Mais ouais, voilà, je peux utiliser mes mains un peu, parfois. Je me rends à divers trucs, que ce soit des rendez-vous médicaux ou plus ponctuellement des choses qu'on traite soit à l'administratif, soit au boulot. Et j'arrive un peu à faire tout rentrer, même si c'est serré. Ça marche plus ou moins bien. C'est pas une science exacte, c'est toujours un petit peu fluctuant, et puis t'as des moments qui sont moins bons que d'autres, mais disons que j'y arrive certainement mieux qu'en 2021 ou 2022, en tout cas. Donc tout ça, c'est heureux. Et puis en même temps, il me reste mais tellement d'autres choses que j'aimerais pouvoir faire que ça m'embête d'en être là, tout simplement. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter sur le sujet, dans le sens où il y a pas mal de choses que je voulais évoquer là-dessus, qu'on a en fait évoqué notamment à travers l'assurance invalidité tout à l'heure.
D'accord.
J'ai des jolies réussites professionnelles ces derniers temps. J'ai écrit
un excellent article sur Canard pour Canard PC qui exact. Canard PC, c'est juste
Canard PC Hardware, ouais.
Eh ben, je l'ai trouvé. Je suis très contente parce que les lecteurs l'ont rendu gratuit pour une semaine.
Ouais.
Et ben, il ne le sera sûrement plus au moment où ce podcast sortira. Mais essayez de vous procurer le Canard PC Hardware en question parce que rien que pour cet article, il vaut la peine.
Numéro 2, octobre 2023. Je ne sais plus si c'est septembre-octobre ou octobre-novembre, mais c'est le numéro d'octobre 2023 en tout cas. Merci. Et j'étais très surpris d'ailleurs de voir que les lecteurs l'avaient voté. J'étais très surpris parce que ben, c'est la deuxième fois que j'écris dans le Canard PC Hardware. La première fois c'était il y a 3 ans pour un tout petit article. Déjà j'étais honoré de la confiance de Furo, le nouveau rédacteur en chef. Mais en plus de voir que les gens l'avaient apprécié à ce point-là, alors même qu'on se posait la question de savoir si ça allait être rebutant pour un public qui s'intéresse pas au handicap parce que la plupart des gens ben, ils sont valides. Ouais, c'est un pari. Pari qui a été visiblement payant. Donc, cool. Et puis là, je peux le dire...
Mais tu sais, je crois que mine de rien, il y a quand même plus de... En tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que ça pourrait être elle également.
Peut-être que l'image que nous, on a en tant que professionnels des médias, des attentes des gens par rapport à ce genre de sujet, qui par le passé était aucun et qui aujourd'hui serait peut-être un petit peu plus, et peut-être justement en retard par rapport à la prise de conscience dans le public. Donc peut-être qu'on se fait une idée un peu trop pessimiste de ça.
Après, peut-être que je me fais une idée trop optimiste des gens.
Tu sais, je voyais circuler le chiffre tout à l'heure, c'est Malik Renard qui en parlait dans le temps, je crois 22% de la population suisse est considérée comme souffrant d'une invalidité.
Ok.
Donc, un peu plus d'un cinquième. Tu crois 5 personnes dans la rue, l'une des 5, statistiquement, tu vois, a une chance d'avoir une invalidité.
Tout à fait.
Et,
Tout à fait, ouais.
Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Du coup, c'est beaucoup de gens. Après, à quel point est-ce que les gens qui sont victimes d'invalidité légère n'aiment pas s'identifier à l'invalidité ou au handicap au sens large, on entre sur un autre débat entre l'image de la normalité qui est donnée, etc. Et je crois qu'à la fois des psychologues et des sociologues auraient des études passionnantes à faire sur le sujet, si ce n'est déjà fait. Ouais. La question se pose en tout cas. Mais ouais, j'ai eu ça. J'ai eu un truc dont je peux pas encore parler, mais via Blueprint, dont on vient d'avoir confirmation cette semaine. Et qui va me permettre d'avoir un petit peu d'argent. Un autre truc, donc je te parlerai en antenne, un autre truc dont je peux parler, parce que c'est pas Fort Knox pour le coup, qui est que je vais signer un papier dans le temps en 2 semaines, au moment où on enregistre.
Super.
Ouais, justement pour la sortie.
Donc qui sera sorti il y a 2 mois, au moment où ce podcast sortira.
Exactement. Pauvre Snake, il monte l'émission aussi vite qu'il peut. Oh,
je suis désolé, Snake.
Ça c'est un coup bas. C'est un coup bas que tu savais même pas que tu lui portais. C'est terrible.
Non, mais je dis ça avec beaucoup d'amour.
Si ça se trouve, c'est juste moi qui ai mis du temps à envoyer l'enregistrement.
Voilà, c'est exactement. C'est plutôt ça que je soupçonne en général que la rapidité du monteur.
Yes. Mais ouais, donc voilà, j'ai des à la fois des opportunités et des succès dans mon domaine que j'espérais avoir, même si évidemment j'espérais aussi que ça vienne avec un emploi stable, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui, mais au moins j'ai ça, tu vois, des trucs que j'avais même pas avant, et ça donne un peu la pêche, surtout quand tu as un regard rétrospectif et tu te dis mince, en fait j'ai réussi à faire ça pendant l'été, j'ai réussi à décrocher des trucs, il se passe des choses, pas assez, mais il se passe des choses, et ça comment dire, ça permet d'atténuer ce sentiment de je suis à capacité, je peux pas vraiment en faire plus, parce que tu te dis ouais, ça je peux pas vraiment faire plus, mais en même temps il y a des progrès, il y a des trucs intéressants qui se passent, Et du coup, c'est signe qu'il faut continuer, et c'est signe qu'il faut continuer à pousser, quoi. Voilà.
Ok.
C'était mon segment perso.
Dac.
Et bah, toi?
Je te remercie.
En beau.
Alors moi, j'aimerais te parler d'un sujet. Alors à la base, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Hier soir, je me suis dit, avant-hier soir, au moment où on a reparlé de faire ce podcast, je me suis dit, je vais parler du fait que ces derniers mois, je fais des pauses de weed en moyenne entre 20 et 28 jours. Et que cette fois-ci, j'essaie de faire une pause de 28 jours. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'était le 22e jour et que j'ai craqué, j'ai fumé un joint. Mais en fait, ce que j'essaie au travers de cette diminution de ma consommation de weed, c'est avant tout d'avoir une consommation de weed plus qualitative, on va dire. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fumé un joint avec ma maman. On a bien discuté, on a eu des les discussions sont allées à des endroits où je pense pas qu'elles seraient forcément allées si j'avais pas fumé. Et je vais essayer de pas refumer ce soir, d'attendre peut-être demain soir, peut-être d'aller me faire un joint pendant le coucher de soleil. Ça pourrait être sympa. Mais je vais essayer de fumer moins et de fumer de manière plus qualitative. L'autre, le pendant de ça, c'est que ma consommation de cigarettes roulées, par contre, a explosé. Mais ouais, je préfère ça plutôt, ça coûte moins cher.
Sous cet angle-là, oui. Je vois tout à fait.
Bon, bah, je suis désolée, ouais, bon, je peux approfondir, c'est vrai que là, je donne un petit peu le pitch et je développe pas. C'est vrai que ces dernières années, depuis que j'ai été hospitalisée pour ma paralysie, j'avais tendance à fumer tous les jours. Et depuis une année et demie, j'essaie de prendre des pauses, histoire de plus ressentir les effets quand je fume. Donc, je fais pas du tout des pauses parce que c'est bon pour ma santé. Je fais des pauses pour être mieux défoncé. Mais bon, chacun ses objectifs. On n'est pas là pour juger. Et du coup, là, ça fait 3-4 mois que je fume en moyenne une semaine sur 4, voire une semaine sur 5 ou sur 6. Et j'en suis plutôt fière parce que je me rends compte que je suis capable de gérer la sobriété, ce qui était quelque chose auquel j'aurais pas été capable d'être confrontée il y a encore, disons, un an et demi de ça. Mais ouais, je suis capable d'affronter le monde sans être sous un produit ou un autre. Et bon, d'accord, il y a la nicotine et la caféine, mais celles-ci, elles sont tellement banalisées qu'on n'en parle même pas.
T'as au moins la pression sociale sur celle-là, quoi.
Ouais. Encore que avec leurs nouvelles interdictions de fumer à 30 mètres des gares, parce que ça incite les enfants, voilà, quoi.
Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller fumer sur le préau de l'école primaire.
Pour mater.
J'allais dire tout à l'heure, j'ai relevé le terme que tu as utilisé qui était fumer de manière plus qualitative des joints. Qualitative, opposé à compulsif.
Exactement, parce que je me suis rendu compte que dans ma personnalité, c'est une réalisation que j'ai depuis des années, qui est plus ou moins consciente, mais qui en ce moment est particulièrement consciente. Je suis quelqu'un de très compulsif dans mon comportement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre à contrôler avec aide de mes professionnels de santé, en faisant le maximum de mon côté. Je réussis pas toujours, mais je commence, au moins j'en ai conscience.
C'est le combat d'une vie, hein. pour tout le monde, je veux dire. C'est des trucs qui se règlent pas en...
Je pense qu'on a tous un peu des côtés compulsifs dans la vie de tous les jours. Que ça se présente sous une forme ou une autre.
Ouais. Je vois tout à fait. Je... ça m'a semblé extrêmement chiant. Pour moi, c'est... Enfin, c'est pas le rangement, c'est la réorganisation qui est compulsive chez moi. Et,
D'accord, Marie Kondo.
Mes collègues peuvent t'en dire... Oui. C'est, honnêtement, je vais rien répondre à ça parce que je le mérite. Mes collègues, à peu près dans tout...
Les auditeurs du podcast aussi. Les auditeurs du podcast aussi, je pense qu'ils peuvent en attester.
À plus faible échelle, mais peut-être, oui, effectivement.
Tu parles quand même beaucoup, beaucoup d'organisation et de répartition.
J'en parle beaucoup moins depuis que je suis incapable de le faire.
Peut-être que c'est ça la leçon que tu dois en tirer.
Et donc, pour m'aider, je devrais être encore plus en incapacité. Enfin, on rigole, mais c'est un peu ça, hein, avoir plus de problèmes pour avoir moins de problèmes. Au moins, t'as un seul problème et tu sais lequel combattre. Si ton seul problème grandit de plus en plus. Enfin.
Bon, bah voilà, non, je crois qu'on a fait le tour des sujets.
Ouais, sur les substances, j'ai toujours le côté outsider qui regarde à l'intérieur, quoi. J'ai pas... Tu vois, on en parlait au début, et c'est bien, ça boucle un peu la boucle, mais tu vois, même l'alcool chez moi, certes, j'en ai bu, si tu veux, mais pas au point, par exemple, d'avoir un blackout, je crois pas. J'ai eu le système digestif à l'envers une fois, mais je sais pas si c'était dû à l'alcool en lui-même ou une intox alimentaire à côté.
D'accord.
Donc je saurais même pas dire si c'était l'alcool. Les burgers de bar, les amis. Bonne
chance. Méfiez-vous.
Hein, quoi ? Oui, méfiez-vous, effectivement. Tu ne sais jamais où entraîner les doigts. Enfin bref. C'est parfois c'est pas de bol.
Du coup, est-ce qu'on a une question déjà cette semaine ou pas ?
Non, mais par contre, justement, on peut culpabiliser les gens qui nous écoutent et leur dire tmi@blueprint.pm. L'adresse est également dans la description de l'épisode. Merci Greg. Et nous, bah, on se retrouve lors du prochain épisode ou juste après.
On a le segment titre potentiel encore.
Exact. Oui, j'allais le teaser justement. Ah, mais tout à fait.
Ah
bon.
Merde, pardon, on
mais
l'a
c'est
refait.
Pas grave. Nous y voilà. Regarde, pouf, on est dedans. Et qu'est-ce que tu as noté ?
Alors, j'en ai noté beaucoup.
Franchement, la Getting to Know You Nation te doit un millénaire de remerciements, simplement parce que je suis incapable de le faire. Et du coup, le fait que tu en notes beaucoup, c'est merveilleux.
Je sais, c'est pour ça que j'essaye de prendre autant chez toi que chez moi.
Merci.
Alors, allonger Getting to Know You. Intervention précoce, plus compliqué qu'une punchline, et celui qui perd se tire une balle, plus facile d'être humain derrière un micro, bravo à tous les deux, toutes les questions qui fâchent. J'ai enfin un peu des seins. Je ne suis pas un homme blanc. Ça donne pas forcément hyper envie. Rendre ce futur intéressant. Mmh. Au moins j'en ai conscience. C'est le combat de toute une vie. Avoir plus de problèmes pour avoir moins de problèmes. Outsider qui regarde à l'intérieur, méfiez-vous. Moi, je vote pour et celui qui perd se tire une balle.
Il y a celui-là. C'est toujours cool. Il y en a un qui était un des plus courts, qui était peut-être aux deux tiers dans ta liste. C'était quoi?
Alors, bravo à tous les deux.
Non.
Toutes les questions qui fâchent.
Juste après celui-là, je crois.
J'ai enfin un peu des seins.
Non plus.
D'accord, ça me rassure. Je ne suis pas un homme blanc.
Non plus.
Rendre ce futur intéressant.
Presque.
Au moins, j'en ai conscience.
Voilà, celui-là. Celui-là, c'est un mood. Celui-là, il est violent. Au moins, j'en ai conscience. Mais le non-dit est tellement fort, je trouve.
Ouais, je l'aimais aussi beaucoup.
En fait,
alors
deux...
écoute, on part sur au moins j'en ai conscience.
Ou t'as une option, d'accord. Ok.
Non, alors non, moi c'était soit et celui qui se tire une balle, soit celui-ci.
Les deux me vont pour des raisons différentes, tu vois. On se tire une balle, c'est vraiment le côté tout est dit de manière violente, et de l'autre côté, l'autre est beaucoup plus subtil.
Et meta.
Si ça te va.
Ça me va très bien.
Nickel.